Mais non, mais non, mais non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 170e émission. Gilles Gouget pour vous servir et Pascal Ruyer est dans le TGV. Mes bons amis, il en descendra dans 4 minutes et 22 secondes si vous n'écoutez pas la rediff et sera avec nous dans le courant de cette 170e divergence numérique, au sommaire de laquelle nous avons évidemment la revue de presse de l'April pour la semaine 21 avec Luc et Manu en direct ou en léger différé de Solutions Linux 2013. Et puis on aura une interview de Christian Renaudino et Lunar pour parler de l'association nosoignons.net et de Tor et des nœuds de sortie Tor, des trucs super bizarres mais qui pourraient garantir votre confidentialité sur internet. Et puis on parlera aussi évidemment de notre envoyé spatial sur la planète Solutions Linux 2013, Pascal Ruyer, qui sera de retour dans les studios. Et puis une interview aussi du nouveau président d'Ubuntu FR, qui l'association qui gère un petit peu la communauté de libristes autour de cette distribution fort connue. Une interview proposée par Luc et Manu de l'April. Côté fil musical, eh bien, une fois n'est pas coutume, ce sera, quoi que ça arrive assez régulièrement, ce sera un tout nouveau groupe de notre région. Les Rois du Rodéo, qui font sous fond d'épisodes seminoles et d'ambiance western, eh bien, une country folk acoustique chaude et envoûtante, un petit peu sombre, nomade et mystifiant, où il est question d'illusions et d'amour brisé. Un groupe qui a vu le jour en 2012 à Montarnau et qui distribue sa musique sous licence Creative Commons by NCND 3.0. Leur première démo, EP, 7 titres s'appelle Balade Champêtre 01, ce qui sera assez pratique pour la suite, vous l'aurez tout de suite compris. On en écoutera donc divers extraits, on aura aussi des petites new news bien évidemment comme à l'accoutumée pour l'heure. Eh bien on va se retrouver dans à peu près une dizaine de minutes et 38 secondes pour laisser la place à la revue de presse de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 21, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, on est au salon solutions libres et open source, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit derrière nous.
Et oui, ça nous change, et outre le fait que le nom a été bien pensé, maintenant ils ont inclus libre en plus d'open source, ce qui est pas si mal.
Donc, premier article, Agoravox, tous les emplois n'ont pas la même valeur. Un article de Mathius.
Donc un article assez conséquent et super intéressant, n'est-ce pas ?
Bah, on sent que l'auteur, il a... Alors, d'une part, on sent qu'il n'a pas l'habitude d'écrire. Hein. C'est Agoravox, hein, c'est un truc où les gens viennent s'exprimer. Donc le style est un peu difficile. Ça parle d'économie. Et en faisant cette distinction qui est juste, hein, le fond, il est juste hein, de dire que il faut faire une différence entre économie réelle et donc on est dans la matière, dans qu'est-ce qu'on fait pour manger, se vêtir, se loger, et l'économie de service où on est un peu dans le flou. Et il va parler de logiciels libres et de logiciels propriétaires en disant que dans le logiciel propriétaire, on va essayer de vendre un maximum de services, c'est-à-dire délayer autant qu'on peut et faire travailler des ingénieurs un max pour avoir finalement un résultat assez faible, et que dans le logiciel libre, au contraire, on va mutualiser les développements et du coup être plus efficace. Et que selon lui, on doit, enfin j'interprète quand même beaucoup, parce que des moments il fait quand même des fixettes sur des trucs assez précis, on comprend pas trop pourquoi. Voilà que du coup il faut avoir une démarche où on va essayer d'être plus dans l'économie réelle.
Moi ça me paraît un bon article à troll, notamment il compare quasiment le propriétaire et l'esclavagisme, ce qui me paraît assez conséquent et audacieux.
Voilà, ça tranche quand même assez violemment, ça va pas trop dans le détail, et on sent également qu'il manque de culture économique, hein, il va sur ces sujets-là. Et voilà, il conclut sur le fait qu'il faut plus de paysans, enfin, donc c'est un petit peu bizarre. Donc bon, on peut se passer de la lecture de cet article à mon sens.
Ah non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il faut y aller, mais il faut y aller avec des armes intellectuelles.
Tu veux troller, c'est pour ça.
Et effectivement, c'est toujours marrant de voir des opinions aussi tranchées.
Les Échos, le biais de l'internet-centrisme, un article de Hubert Guillot.
Donc encore un article plutôt intello, hein.
Oui, alors bah c'est un sujet qui revient de temps en temps, et là on revient sur cette question de le monde est-il changé par Internet ? Et avec un article, on sent qu'il y a un petit fond de mépris pour Internet, de ce truc qui nous énerve. Il y a un petit fond comme ça de...
Un peu de recul, mais en même temps, de toute façon, il le présente. Hein, c'est aussi basé sur un livre, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des chercheurs, c'est très, très universitaire. Et effectivement, ils prennent du recul. Ils considèrent qu'Internet, c'est une délusion. C'est-à-dire, on se désillusionne. Les gens ont cru qu'Internet était la solution à tout et on en revient.
Le propos est pas faux et il est argumenté. Donc c'est en ça que cet article est vraiment intéressant, et plus intéressant que le précédent. Après ça, il faut passer outre le côté « je veux casser d'Internet » parce que finalement, on a l'impression qu'ils veulent prendre un peu la position inverse de celle qui dénonce. Et du coup, ça amène à réfléchir et ça, c'est bien.
Moi, j'aurais une petite opinion à proposer. C'est pas que c'est Internet qui change le monde, c'est le monde qui se change lui-même, et Internet est simplement une des productions parmi tant d'autres. Et effectivement, c'est une production qui est ouverte, qui est démocratique, plate. Il y a beaucoup moins de hiérarchie. On en a déjà parlé. On est en train de changer le monde.
Alors, il y a des grands débats là-dessus, hein, dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. C'est est-ce qu'un mode de communication peut changer la société ? L'article ne répond pas à ça. En tout cas, il invite à être prudent sur les gens qui veulent diffuser les principes, notamment du libre, pour tout et n'importe quoi. On a une notion qui est très à la mode actuellement, qui est intéressante, hein, qui est la notion de bien commun. Et c'est vrai, quand on va fouiller dans les gens qui ont parlé de bien commun, notamment chez Elinor Ostrom, il y a une différence entre bien commun et bien public. Et on veut faire rentrer, par exemple, le logiciel libre dans les biens communs. Mais selon les définitions d'Elinor Ostrom, le logiciel libre est un bien public, parce que c'est un bien qui n'est pas un bien rare. Et ça fait toute la différence. Et donc, voilà, cet article, il est intéressant pour ça. Il faut savoir rester raisonnable et mesurer, et pas faire des gros agrégats et y aller à la hache, quoi. Réseautélécom.net, solution libre et open source 2013, un article de la rédaction.
Donc on parle de l'endroit où on est en ce moment même, hein. Pas grand chose de spécial à dire, si ce n'est que c'est un article qui présente le lieu, qui présente l'actualité, les conférences et les thèmes de l'année. Donc je sais pas si on peut en parler vite.
C'est un salon sympa et qui a cette particularité d'avoir à la fois des professionnels et un village associatif, ce qui est assez rare, même plutôt rare, et on l'aime bien pour ça. Du coup, il y a de l'ambiance et donc voilà.
Oui, je rajouterais, il y a quasiment 60 associations qui sont sur le lieu. La mixité entreprise-association est effectivement à noter. Ça fait une ambiance rare et originale, donc on apprécie.
Tahiti Info. Lolita organise une install party à la Maison de la Culture, un article de la rédaction.
Donc c'est un nouveau site et puis c'est une petite actualité locale parce que ça fait plaisir de voir justement des gens qui se prennent en main et qui proposent venez les voir, allez les rencontrer, il y a des dates, il y a des lieux et quand vous en partirez plus riche et peut-être même plus riche d'un peu de liberté puisqu'ils se proposent d'installer sur votre ordinateur, celui que vous emmènerez avec vous, une distribution libre de votre choix.
Et oui, donc c'est une install party d'Ingul, de Tahiti, et on aime bien relayer ce qui se fait à droite, à gauche. Et voilà, ça bouge de partout, c'est très bien. 01net Pro, faut-il favoriser le logiciel libre à l'école ? Un article de Xavier Bizol.
Donc ça fait partie de la grosse actualité du moment, on en a déjà parlé, on continuera à en parler, j'en doute pas, parce que, et oui, dans la loi, il y a des gros changements, et là, on a le plaisir d'introduire pour la première fois le terme logiciel libre dans la loi française.
Oui, alors c'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière avec ce qui se discute au Sénat. On rappelle, hein, c'est un projet de loi, rien n'est voté encore, donc on espère que ça va rester en l'état. Et une des commissions du Sénat avait proposé d'intégrer du logiciel libre prioritairement à l'école. Et donc ça, ce serait très très bien. Et l'article fait état de réactions négatives de la part de Syntec et d'un autre organisme, et qui élève d'elle. Donc l'April a réagi là-dessus, notamment, puisqu'il y a deux affirmations de la part de ces structures. Une première qui était de dire que mettre prioritairement du logiciel libre, c'était anticoncurrentiel. Or, le Conseil d'État a... on en avait parlé dans la revue de presse il y a un petit moment, le Conseil d'État a dit que c'était tout à fait légal puisque n'importe quelle entreprise peut s'aligner sur du logiciel libre
et
contrairement
y a pas
à du logiciel propriétaire,
y a pas
puisque
de
le code est ouvert.
Oui.
Et donc ça n'est pas anticoncurrentiel. Et il est également, là j'ai oublié les détails, fait question d'un truc où il y avait une réunion et où certaines autorités administratives auraient pris un choix, etc. Et en l'occurrence, ils n'étaient pas présents à cette réunion-là. Donc deux positions contre ce truc-là que l'APRI l'a cassé en disant que c'était de la mauvaise foi, au moins dans un des deux cas.
C'est un peu rageant parce que voilà, ils en appellent à la réalité économique, au fait de favoriser les entreprises françaises. Et non, nous on le constate tous les jours, c'est pas les entreprises françaises qui profitent majoritairement du propriétaire, ce sont des entreprises américaines, hein, tout simplement, Microsoft, Oracle parmi les premiers. Donc non, il faut au contraire se battre pour favoriser les industries du service, pour favoriser des gens qui développent localement des sociétés d'intégration. Il y a l'Inagora qui intervient justement sur ce sujet et qui se revendique de notre côté, qui revendique, voilà, il faut favoriser dans l'éducation le logiciel libre et les ressources libres parce que ça va nous aider économiquement et puis ça va aussi aider l'éducation. Ça nous coûtera peut-être un peu moins cher déjà.
Ce sera plus efficace et ça fera bosser des entreprises françaises. TechPost, why is the International Space Station switching from Windows to GNU Linux? Donc qui est un article de la rédaction.
Donc on a déjà abordé le sujet, on en reparle parce que c'est quand même intéressant et puis c'est fort. La station spatiale donc, qui est au-dessus de nos têtes, eh bien, elle tourne maintenant sur du logiciel libre uniquement, alors qu'il y a encore peu, c'était avec du Windows XP, je crois.
Oui, alors c'est sur les ordinateurs que les astronautes, les spationautes utilisent pour travailler. Donc c'est pas les systèmes de la station elle-même, qui, eux n'étaient pas sous Windows.
Oui, faudrait pas être idiot à ce point-là.
Et ils ont eu donc avec ces PC, PC de boulot, ils ont eu des problèmes de virus. Donc c'est
oui,
incroyable.
Il semblerait qu'il y a un astronaute, un cosmonaute russe qui s'est docké là-bas avec son ordinateur, un ordinateur portable. Et il a embarqué avec lui un virus. C'est rageant quand on pense à toutes les conséquences que ça pourrait avoir.
Et oui, le temps est cher. Hein, je veux dire, quand on connaît le prix du kilo envoyé dans l'espace et la somme de moyens qu'il faut pour envoyer des gens là-bas et tout le boulot qu'ils ont à faire, on n'a pas de temps à perdre à résoudre des problèmes de virus. Et si en plus ça, on doit perdre des données sur des expériences, des trucs comme ça, c'est juste une catastrophe terrible.
Donc là, on est content. Ils ont choisi la Debian 6. Donc Debian, c'est un peu la distribution parente de Ubuntu, qui est un peu plus connue pour le coup dans le grand public. Moi, j'applaudis parce que c'est quelque chose de très stable et solide.
Purement libre. Et c'est voilà. Une version assez ancienne, mais
relativement
très solide, très carré.
Donc tout ça, ça valide la technicité et la grande qualité du logiciel libre. Ça fait plaisir. Donc c'est bien pour ça qu'on le met en avant hein, et on n'hésitera pas à en reparler, j'en doute pas. Je rappellerai que les gros ordinateurs du monde entier tournent sur du logiciel libre parce que c'est plus efficace aussi. Donc vraiment, pour chez vous, n'hésitez pas, il faut que vous installiez une Ubuntu, une Debian, c'est pas si mal.
Très bien, et bien, c'est fini pour cette revue de presse.
Manu, à la semaine
merci.
Prochaine.
Au revoir tout le monde et à bientôt.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie vivement pour cette revue de presse enregistrée durant le salon Solutions Linux 2013. Les Rois du Rodéo, c'est notre film musical du jour. Un groupe local sous licence Creative Commons by NCND. Et chez eux, des fois, c'est la guerre.
Sous la mitraille arc-boutée, la baïonnette au canon, à lutter dans les tranchées, célébrer la déraison. Le goût du sang à la bouche, des cicatrices à la volée. La science de l'escarmouche, des médailles par milliers. Depuis toujours bouleversé par le doux sifflement des balles, dans la tourmente emportée, la fureur en piédestal, des grandes retraites de Russie, des Waterloo en filigrane. Corps transi à l'agonie errant sur chemin des dames. Tout essayer à genoux supplier. La seule chose que je sais faire, pardonne-moi, c'est la guerre. Tu peux te prosterner toute la nuit prier. crois mon unique bréviaire, mon amour c'est la guerre. Dans les arcanes du chaos, comme un serpent hypnotisé, un alligator sur le dos, ou une gnise ou bigorne en position tire couché, le clairon qui résonne des alcools pour oublier. Je peux tout essayer, à genoux me supplier. La seule chose que je sais faire, pardonne-moi, c'est la guerre. Tu peux te prosterner toute la nuit prier. Moi, mon unique bréviaire, mon amour, c'est la guerre.
C'est la guerre, les rois du rodéo, notre film musical pour 770e Divergence numérique. C'est sous licence Creative Commons by Yensen D3.0, soundcloud.com/les rois du rodéo. On salue nos auditeurs du 103.3, du 102.0 et du 104.1 de Radio Escapade et les auditeurs de Radio Larzac sur le 87.8 et le 98.6. Quelques petites new news. On parlait dans la revue de presse de l'enseignement, de l'éducation et des logiciels libres. Petite news, linuxfr.org, l'enseignement de l'informatique est plus que jamais un sujet d'actualité. L'Académie des sciences vient de publier un rapport dont le titre est « L'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre ». Le PI, enseignement public et informatique, s'associe aux recommandations de ce rapport dans un communiqué. Le document de l'Académie des sciences est un PDF de 34 pages, assez dense, ce qui est plutôt normal chez les scientifiques. Sur le site de l'EPI, vous trouverez un résumé de ce document. Dans le même esprit, vous regardez la conférence donnée par François Elie lors de la troisième édition de Fait-on Linux, c'était le samedi 27 avril 2013, quelle école pour la société de l'information ? To program or to be programmed. Le fond de son discours est que l'enseignement de l'informatique doit faire la différence entre l'enseignement de la science informatique, des technologies informatiques et des usages de l'informatique. On se souvient du flop du B2I qui ne sert finalement qu'à apprendre aux gens à utiliser un client mail, ce qui quand même est un petit peu ridicule. Enfin, le Sénat vient de demander d'utiliser en priorité les logiciels libres dans le numérique éducatif. Décidément, au vu de ces réactions, on peut penser qu'il y a un gros problème dans l'éducation nationale, on va dire un changement de mentalité qui devra se faire. Côté vente liée, vous savez, quand vous achetez votre ordinateur dans une grande surface et que vous ne pouvez pas l'acheter sans le système d'exploitation qui va avec, ce qui est considéré quand même comme étant illégal par la loi, eh bien le groupe Non au racketticiel a besoin de vos témoignages. Ce groupe de travail de l'association AFUL a besoin de vos témoignages pour étayer les dossiers défendus par son avocat. En face de lui, les constructeurs ne lésinent pas sur les moyens et vont jusqu'à utiliser les cabinets d'avocats les plus chers d'Europe. Ils persévèrent ainsi à imposer en toute illégalité le paiement de la licence du système d'exploitation lors de l'achat de chaque ordinateur. Le but est de créer un dossier relatant le caractère fastidieux ou complexe, voire sans espoir, de la démarche à effectuer pour se faire rembourser. Il est bien évident que le nombre de témoignages recueillis sera un élément de poids dans la lutte contre cette pratique illégale qui est imposée depuis un sacré bout de temps en France. Et puis pour les geeks qui aiment bien virtualiser des machines, la version 3.0 de Proxmox VE est sortie. C'est un logiciel qui donc sort en version 3.0, un environnement de virtualisation libre sous licence GPL, basé pour cette nouvelle version sur Debian Wheezy, la 7.0, et utilisant notamment les technologies Kernel-Based Virtual Machine W, le KVM, et OpenVZ. Il permet donc de gérer de manière avancée les différentes machines virtuelles virtuelle lancée sur des serveurs. Voilà, vous avez l'info, c'était super important de dire ce truc-là. Pour l'heure, on va quitter nos new news pour encore un petit peu de musique avant de parler de nosoignons.net. On écoute donc un nouvel extrait de cette EP balade champêtre des rois du rodéo et ça s'appelle « Jusqu'au bout ».
La connais-tu vraiment ? Mon histoire du rock'n'roll, elle s'inscrit dans le sang. La folie et l'alcool, est-ce que tu fredonnes encore ce bebop loula ? Dans sa version accord, son bel écrin d'effroi. Juste avant que les archanges me déchirent le ciel, j'irai jusqu'au bout. Mes graines au gré du vent, des regrets éternels, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Racontes-tu toujours mes histoires de vampires qui brûlent au petit jour dans un ultime soupir? Est-ce que tu danses encore le pogo de l'enfer? À l'amour, à la mort, dans les tessons de bière, juste avant que les archanges me déchirent le ciel. J'irai jusqu'au bout. Des graines au gré du vent, des regrets éternels, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Divergence numérique, 170e émission, nosoignons.net. C'est un site d'une association qui s'appelle nos-oignons.net. Nos Oignons, une association à but non lucratif créée pour collecter des dons afin de faire tourner des nœuds de sortie Thor. Nous sommes en ligne avec Christian Renaudino et Lunard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on est ensemble pour parler de nosoignons.net, nos-oignons, comme oignons au pluriel, .net. C'est une association à but non lucratif qui a été créée pour collecter des dons afin de faire tourner des nœuds de sortie Thor. Alors, ça va parler à certains des auditeurs de Divergence parmi les plus geeks. Thor, on en a entendu aussi parler dans les masses médias lors des événements, notamment en Tunisie. Un système qui permet d'anonymiser les connexions et de contourner la censure dans le réseau Internet, à la fois un logiciel, un réseau de relais composé de plus de 3000 serveurs et un projet autour duquel gravitent une quarantaine de personnes. Alors, peut-être revenir sur l'historique de finalement pourquoi Thor est né, pour répondre à quel problème sur Internet en quelque sorte.
Alors, Thor, c'est le routage en oignon même, c'est plutôt un vieux projet. Il me semble que les premières recherches, elles ont commencé avant même les années 2000. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir sur Internet, pour que deux machines communiquent, on a besoin qu'elles connaissent mutuellement leurs adresses. L'idée du routage en oignon, c'est de permettre à deux machines sur le réseau de communiquer tout en évitant de révéler cette information-là. Parce que si on a l'adresse d'une machine sur le réseau, on sait où elle se trouve physiquement. Et donc, potentiellement, on peut retrouver les personnes qui communiquent au moment où elles le font.
Ce logiciel, dans son histoire, il est né donc dans ces années-là ?
Alors, le début de Thor lui-même, en tant que projet Thor, c'est plutôt dans les... On est en... Il me semble entre 2002 et 2004, si je ne me trompe pas. Et donc, l'idée, ça a été de permettre de communiquer de façon... anonyme sur Internet, et ça c'est un pendant, et l'autre pendant, mais qui est indissociable, qui est de pouvoir contourner le filtrage et la censure. Les deux sont indissociables parce que si jamais on est capable d'identifier, de reconnaître une connexion, et ben on peut la filtrer. Et donc c'est en faisant au maximum que les connexions se ressemblent, et donc en les rendant indistinguables, et donc anonyme, qu'on peut arriver à contourner la censure.
Concrètement, c'est vrai qu'en cas de révolution ou de conflit avec un gouvernement totalitaire, on comprend bien l'utilité que ça peut avoir pour la démocratie, la liberté. Ça peut aussi permettre justement de contourner certaines politiques des fournisseurs d'accès à Internet, puisqu'on a entendu l'histoire autour de YouTube et Free, etc., qui ont tendance un petit peu à ne plus être très neutres dans leur fourniture de services.
Il y a un moment, en tout cas, ça va mieux maintenant, mais il y a un moment où effectivement, malgré le fait qu'une connexion qui passe par le réseau Tor, elle rebondit sur trois relais différents, c'était plus rapide de... Quand on avait une connexion chez Free, c'était plus rapide d'aller sur YouTube en utilisant Tor qu'en passant en direct.
Le projet Nos Oignons, il est là pour créer des relais supplémentaires, c'est bien ça?
Alors dans l'esprit, effectivement, le réseau Tor, Lunar vient de l'évoquer, donc il faut beaucoup de machines. Une des difficultés pratiques aujourd'hui, c'est que du fait du canal de communication, il y a beaucoup de machines intermédiaires et donc des temps de latence dans les transmissions de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a plus de 3000 machines dans le réseau Tor aujourd'hui, 80% du trafic à peu près est concentré sur 40 grosses machines de sortie. Donc l'idée pour améliorer le réseau Tor, c'est d'augmenter ce nombre de machines à grande capacité, à grande bande passante, ce qui permettra d'améliorer la fluidité du trafic et puis aussi de sécuriser son fonctionnement, parce que plus il y aura des gros nœuds de sortie dispersés un peu partout sur la planète, eh bien on aura un fonctionnement plus stable et plus fiable dans la durée.
Donc si je comprends bien, il s'agit plus d'arriver à mettre en place des serveurs qui bénéficient d'une bande passante importante plutôt que de mettre à contribution l'ordinateur de chacun pour ce travail-là.
Dans le contexte de Tor aujourd'hui, c'est effectivement d'abord des gros besoins de bande passante, oui. Au-delà des connexions que tout un chacun peut faire tourner chez soi sur son propre serveur ou sur des serveurs hébergés, oui.
Actuellement, pour participer, il y a déjà aidé à financer tout ça. Pour que les gens se fassent une idée, ça représente combien d'argent de mettre en place un nœud?
Les estimations qu'on a pour l'instant, c'est entre 150 et 300 euros par mois pour un relais avec une connexion 100 mégabits par seconde. Donc pour faire une idée, hein, une connexion 100 mégabits par seconde, ça représente, pour qu'il soit utilisable par Tor, ça représente une connexion qui est 100 fois plus grosse que ce que peut fournir une connexion ADSL domestique. Et donc voilà, donc on est entre 50 et 150 euros et 300, voilà, ça fait que par relais, ça veut dire que si jamais les personnes nous donnent 10 euros, en tout cas ça couvrira les frais de fonctionnement d'une journée d'un de nos relais, ou en tout cas des relais qu'on espère mettre en place très rapidement.
Au niveau de cette collecte de dons pour Nos Oignons, ça se fait grâce au fonds de défense de la neutralité du net, à travers un don qui va de 10 à 250 ou autre pour les dons, on va dire, numéraires. Ce fonds de défense de la neutralité du net, il existe depuis combien de temps?
Il a été créé il y a 4 ans, il me semble. En fait, c'est comme ça qu'est financée la Quadrature du net depuis qu'elle existe et qu'elle récolte des dons. Et petit à petit, cette association-là, elle s'ouvre à d'autres projets. À l'heure actuelle, elle collecte également des dons pour Framasoft ou pour Wikileaks depuis quelques mois. Et donc le projet de Nos Oignons a été accepté dans le sérail de la FDN2.
Il y a aussi la possibilité de participer concrètement, matériellement, notamment si les personnes qui nous écoutent sont dans l'hébergement. Donc là, ça s'adresse peut-être à un public un peu plus restreint, mais qui peut en nature héberger un nœud, en quelque sorte.
En tout cas, on est prêt à. Nous, on cherche des personnes qui soient des hébergeurs qui soient prêtes à héberger des relais Tor. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à se mouiller. Et sachant qu'en plus, en tout cas sur la question légale, on travaille avec un avocat, on fait ça à visage découvert et on a envie de poser aussi des questions légales de la. Est-ce que Tor est-ce que faire tourner des relais Tor est légal en France ou pas? En tout cas, il y a plein d'hébergeurs qui choisissent de dire non. On veut pas savoir. On va pas aider la liberté d'expression. Même si vous êtes prêt à nous payer, allez voir ailleurs. Et donc, c'est un peu la difficulté, c'est aussi de trouver des gens qui soient prêts à tenter l'expérience, quoi. Mmh.
C'est sûr que ça pose pas mal de questions. C'est un domaine dans lequel, pour l'instant, il y a une espèce de vide juridique, c'est comme ça qu'on dit?
Alors, a priori, non, il n'y a pas un vide juridique. Ça, c'est l'analyse qu'on a fait avec Maître Olivier Hugo, qui nous suit depuis qu'on commence nos oignons. L'analyse qu'il a faite, c'est que le fait de faire fonctionner un relais Tor est couvert par l'article 12 de la directive du 8 juin 2000 de l'Union européenne, qui dit très très clairement que si jamais on est simple transporteur, si on n'est pas à l'origine de la communication, qu'on la modifie pas et qu'on touche pas à sa destination, en gros si on est juste un tuyau, et ben elle dit deux choses. Elle dit non seulement qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe, mais qu'en plus on n'a pas à le surveiller. Et alors ça a été transposé dans le droit français, dans l'article L32.3.1 du Code des postes et de communication électronique, si je me trompe pas. Voilà, et qui est aussi assez clair là-dessus, sur le fait que quand on est simple transporteur, on n'est pas responsable de ce qu'on transporte.
C'est tout à fait dans la neutralité, la neutralité du net. On peut aussi devenir membre de l'association et participer à la liste de discussion. Pour l'instant, combien de membres compte l'association et est-ce que la liste de discussion est très active?
Alors aujourd'hui, le groupe donc, qui travaille depuis en particulier début de l'année, donc ça représente une bonne douzaine de personnes. Depuis notre communication sur la création effective de l'association, on doit approcher de la vingtaine, donc on voilà. Et sur le fonctionnement, bah oui, aujourd'hui c'est très actif parce que il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Là, on vient de franchir l'étape de la création officielle de l'association, mais il nous reste encore du travail, aussi bien dans la gestion des membres et de leur adhésion, et puis surtout mettre en place nos premiers relais Tor avec l'objectif d'en avoir vraisemblablement au moins un avant l'été. Voilà, donc il y a beaucoup d'échanges sur la liste malgré tout.
Bah on souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Alors j'imagine que pour tout ce qui est des dons en nature, etc., on retrouve en ligne tous les bilans, comment c'est utilisé.
Eh bien, sur le site internet, effectivement, de nodo-oignon.net, on met l'ensemble des informations et des explications. Et effectivement, on essaie d'être assez transparent sur notre plan de financement et sur la manière dont tout ça va fonctionner. Donc, ça va s'affiner au fil du temps, notamment, comme disait Lunard tout à l'heure, lorsqu'on aura les idées plus claires dans les modalités d'hébergement effectives. Mais oui, on communique le maximum de choses par rapport à ça, tout à fait.
Un détail tout de même, hein, c'est qu'on collecte des dons depuis ce samedi tout juste.
Oui.
On n'a pas encore vraiment ni touché cet argent, ni dépensé quoi que ce soit, puisque ça démarre juste et qu'elle est, pour l'instant chez le Fonds de défense de la neutralité du net et que dès que, bien entendu que dès qu'on mettra les choses en place, on expliquera et on détaillera au maximum pour respecter les gens qui soutiennent le projet.
Puis on encourage tous ceux qui sont sensibles à ce qu'on ne se mêle pas forcément de leurs oignons. Allez sur nos-oignons.net pour se documenter, se renseigner et éventuellement participer. On vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes pour Divergence Numérique. Christian Renaudino, Lunard, à très bientôt sur les ondes de Divergence ou probablement à Bruxelles aux rencontres mondiales du logiciel libre 2013.
Merci.
Merci.
Voilà, vous avez tout noté. Et c'est Pascal qui vient d'arriver dans le studio de Divergence direct du train. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
Dans deux petites minutes, on fera un petit retour sur Solution Linux 2013 où tu étais, entre autres événements, car ça fait quelques jours que tu vadrouilles aux quatre coins de l'Hexagone. Non pas à cheval, mais ça aurait pu être le cas pour introduire ce titre. Cavalier, toujours les rois du rodéo, sous licence Creative Commons by NCND 3.0 FR.
Au grand galop, brûlant la plaine, de la fumée dans les naseaux. Sans harnais ni sel ni rein, nous montons sur nos grands chevaux. peut-être sommes-nous un peu trop cavaliers. Les mus s'en foutent, sans fardeau à porter. Crinière au vent, à l'aventure, faisant résonner le sabot. À nos oreilles, aucun murmure, nous faisons route vers à l'amour. Peut-être sommes-nous un peu trop cavaliers. Pierre en alou, épris de liberté. Revêche à tout, forme de dressage, bête à manger du foin. Nous fuyons notre élevage de moutons qui se croient mineur qu'un. Peut-être sommes-nous un peu trop cavaliers. Des mustangs fous, sans fardeau à porter. Peut-être sommes-nous un peu trop cavalier. Pierre andalou, épris de liberté.
Et la liberté, oui, c'est important pour les logiciels libres, bien évidemment. Les rois du rodéo, notre fil musical du jour. Pascal est donc de retour de Solutions Linux, où niveau, on va dire, village associatif, eh bien, on pouvait retrouver évidemment les grosses associations comme l'AFUL, l'April et d'autres. Il y avait aussi Borsa Linux, Debian France, Dolibar, Doudou Linux, Fan, la Fédération France Wireless, pour laquelle, évidemment, Pascal, tu étais présent là. Fusion Directory, Fusion Inventory, KDE, La Mouette, le truc qui s'occupe de LibreOffice, LibreShop, Linux Azure, Linux FR, Mageia, Monitoring FR, les Mongeurs de Perles, Parinux, PostgreSQL, FR, Shinken, Citas, GNU, Starinux, Tux Family et j'imagine tout plein d'autres.
Et oui, 66 associations présentes sur le village donc associatif. Pour ce salon Solutions Linux Libre et Open Source, qui a changé de nom d'ailleurs entre l'année précédente et cette année, et qui a aussi changé un peu de format, puisque avant c'était étalé sur 3 jours, maintenant c'était sur 2 jours, 2 jours très intenses, puisque en fait on a presque l'intégralité des 3 jours condensés donc sur 2 jours. Alors t'imagines déjà 3 jours, c'était très très prenant en temps, etc. Et en 2 jours, alors là, c'est catastrophique, disons, ou exceptionnel, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de respirer, en fait.
Voilà, ni de dormir, quand on entend à ta voix hein, des traces de manque de sommeil, je dirais.
J'ai aussi beaucoup parlé sur le stand, évidemment.
Ceci explique cela.
Aussi.
Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Au niveau fréquentation, c'était blindé.
Alors, en fréquentation, on retrouve, comme les années précédentes, une charge de public assez impressionnante, avec quelques petits points faibles, moments un peu où ça respire un peu, ça fait une petite pause, et puis ça revient par une grosse vague. C'est le grand classique. En termes de visiteurs, je pense à peu près à la même chose. En termes de fréquentation, c'est vrai qu'on n'est que sur 2 jours, mais à mon avis, on avait l'essentiel du public sur quand même la totalité de cet événement. On peut noter aussi, donc, comme je disais, le changement de nom, changement de format. On est toujours resté à la Défense. Et puis, donc, c'était orienté très orienté pour les DSI et les RSI, les développeurs, les administrateurs systèmes, les responsables marketing, communication, e-commerce. Donc, on parlait de cloud, de politique open source, de nouveaux enjeux, des outils collaboratifs open source, de big data, et puis donc dédié pour les développeurs, administrateurs système, de l'open source, sur les plateformes mobiles. Il y avait des conférences justement sur FireOS. Différents Android, Ubuntu Phone OS, Tizen, qui étaient des OS pour mobile. On avait des animations qui étaient faites par Jeanne Tadeus d'ailleurs, de l'April, différentes tables rondes comme ça. Par exemple, pourquoi faire l'effort de rédiger sa politique en open source. Différents sujets. Les conférences étaient pleines à craquer, les stands aussi. On a pu retrouver évidemment la convivialité des différentes associations, notamment l'April et puis CGU, bien sûr.
Voilà, il n'y a pas eu d'action choc du CGU Squad.
Mais bien sûr que si.
Ah oui.
Bien sûr que si. Alors que ça se faisait normalement le deuxième jour, ça s'est fait le deuxième jour aussi, avant la fin. Et c'était évidemment Pascal Blanc, un fils caché de Pascal Nègre, évidemment, tu l'auras compris, qui essayait d'acheter le libre avec des pimpins dollars bien sûr et de signer des formulaires de l'INPI pour évidemment donner sa propriété intellectuelle.
Alors lors de cette édition 2013 de Solutions Linux, comme on va l'écouter dans 3 minutes 26, il y avait aussi des petits événements internes aux associations, notamment il y a eu l'élection du nouveau président d'Ubuntu FR, on va dire dans le milieu associatif, être élu président, des fois c'est quelque chose qu'on veut et puis des fois c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Donc ça c'est Luc et Manu qui ont interrogé donc le nouveau président d'Ubuntu FR. On va écouter cette interview juste après un autre petit fil musical, et celui-là s'adresse à tous ceux qui croient qu'ils sont enfin trop vieux pour faire du rock'n'roll.
Les sanglots des violons tapissent mes horizons, de grands élans de poésie, de mon moqué, de mon maudit. À l'ombre des déodards dans le crooner sans phare, il rêve de mélodie pour amoureux transi. Enfin trop vieux pour faire du rock'n'roll. Enfin trop vieux pour faire du. Mignonne si la rose fait toujours de la prose. Gageons que ses épines ne piquent qu'en sourdine. Sous la fausse blondeur des jeunes filles en pleurs, un tramway sans désir emporte les martyrs. Enfin trop vieux pour faire du rock'n'roll. Enfin trop vieux pour faire du. Promeneur solitaire, rebelle et sanguinaire, je me fais buveur d'eau en reniant Murnau. Je convoque les hommes des barbares à la mort et dessine un mouton au petit prince Bougon. Enfin trop vieux pour faire du rock'n'roll.
enfin trop vieux pour faire une lune. Enfin trop vieux pour faire du rock and roll. Enfin trop vieux pour faire du.
Les rois du rodéo sous licence Creative Commons by NCND 3.0 FR. Donc, voilà, on faisait ce petit retour avant d'écouter l'interview du nouveau président d'Ubuntu FR. Donc, Pascal, une édition de Solutions Linux 2013, on l'a compris, condensée sur 2 jours. Donc, pas beaucoup de temps pour souffler. J'imagine que dans le courant de la semaine, nous allons récupérer des sons du plateau TV qui, traditionnellement, est organisé toujours par Intellien TV.
Toujours. Voilà. Et là, ils ont enchaîné interview sur interview pendant 2 jours. Il y en avait pour 3 jours finalement, mais sur 2 jours. Et quand j'ai été les voir pour aller pêcher des sons, ils étaient débordés. Ils disent, on va les mettre en ligne, on va simplifier au lieu
de courir partout,
etc. Donc on aura des interviews, les interviews du plateau. Qui était présent sur place, donc la semaine prochaine sans doute.
Voilà, donc nous tirons la substantifique moelle. On écoute donc cette rencontre avec Yo-Boy, le nouveau président d'Ubuntu FR.
Bonjour Yo-Boy.
Bonjour.
Et tu es Yo-Boy, c'est pas ton vrai nom, c'est pas comme ça que tu as été baptisé à la naissance,
non,
je crois.
Non, mon prénom c'est Philippe.
Voilà. Mais bon, on va t'appeler Yo-Boy quand même. Il t'est arrivé un truc exceptionnel récemment. De quoi s'agit-il ?
Je sais pas, je crois que j'ai raté un gâteau au chocolat.
Bah, allez, non, raconte-nous, c'est une question de volontariat et malheureusement, tu t'es pas reculé et au moment où tout le monde circulait.
Ouais, j'ai
été
désigné comme nouveau président de l'association Ubuntu FR. Donc voilà, c'est tout.
Ubuntu FR, donc c'est vous qui organisez les Ubuntu parties à Paris, c'est ça ?
Voilà, on organise les Ubuntu parties à Paris. On participe aussi au premier samedi du Libre, donc tous les mois à la Villette, comme Ubuntu Party. Et pas mal d'autres événements, des rencontres sur Paris, des rencontres en dehors de Paris, et on chapeaute un peu toute la communication Ubuntu dans la communauté francophone.
Tu nous rappelles, pour ceux qui nous écoutent et qui entendent Ubuntu pour la première fois, c'est quoi les particularités d'Ubuntu ?
Alors Ubuntu, c'est un système d'exploitation GNU Linux libre, qui est très accessible au public et qui est développé de façon à ce que n'importe qui puisse aborder l'informatique libre de façon simple.
Alors, il y a eu pas mal de trolls sur Ubuntu récemment, non ? Avec des intégrations de fonctions qui n'ont pas fait l'unanimité ?
Il y a toujours des trolls avec Ubuntu. De toute façon, tous les 6 mois, on a droit à la même chose. Il y a des intégrations de choses qui sont plus ou moins libres, bien sûr, pour que ça soit plus simple pour les utilisateurs débutants de passer au logiciel et après de choisir les solutions qu'ils veulent au final.
Et à part ça, il y a une sortie régulière ?
Alors, il y a une sortie d'Ubuntu tous les 6 mois. C'est généralement au mois d'avril et au mois d'octobre, avec comme particularité tous les 2 ans une version dite LTS, support à long terme, qui permet d'avoir une version d'Ubuntu qui a des mises à jour régulières pour la dernière 5 ans.
Donc aujourd'hui, toi, tu recommandes la LTS en particulier aux nouveaux, ou est-ce qu'il faut vraiment se mettre à la dernière version, la plus sympa, la plus jeune ?
En fait, tout dépend des besoins de la personne. Si elle veut un système stable et qu'elle n'utilise pas beaucoup de programmes un peu ésotériques ou qu'elle n'aime pas trop découvrir des choses nouvelles, la version LTS est parfaite pour elle du fait qu'elle n'a pas besoin de se poser la question au niveau des mises à jour, elle est plus stable, qu'il y a moins de problèmes au jour le jour avec les nouveaux programmes, bien sûr. Alors que la version normale, celle qui est mise à jour tous les 6 mois, du fait qu'elle a des évolutions majeures au niveau des logiciels utilisés et principalement au niveau d'interface graphique en constante évolution, offre un peu plus de bugs et donc de problèmes quand elle sort. Mais ça se résout assez vite généralement après la sortie.
Ubuntu FR, comment on peut vous aider ? Comment on peut faire en sorte d'adhérer et de travailler avec vous ? Il y a combien de personnes à peu près dans l'association ?
Alors l'association est bizarrement très petite pour une association qui regroupe autant de personnes qui utilisent Ubuntu. Du fait qu'on estime que n'importe qui peut faire partie de la communauté sans avoir vraiment besoin d'avoir une étiquette association sur lui. Et donc tout le monde peut contribuer, que ce soit au niveau d'Ubuntu ou au niveau de la communauté. Soit avec le développement du code source d'Ubuntu, soit avec de la traduction, avec de la documentation. On a toujours besoin de personnes pour documenter les différentes parties du système ou d'aider les autres personnes sur le forum et sur les divers outils qu'on utilise.
Et quels sont les liens entre Ubuntu FR et Canonical, donc qui est la boîte sud-africaine, qui, enfin en tout cas qui vient d'Afrique du Sud, je ne sais plus si c'est...
Oui, c'est Max Schutterworth qui est d'Afrique du Sud, mais la boîte elle est basée à l'île de Man. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit sud-africaine maintenant.
Voilà, mais bon, c'est assez exotique quand même. Donc du coup, quels sont les liens entre l'association et cette entreprise?
Alors les liens sont des liens de... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de partenariat. Disons qu'ils reconnaissent notre existence. On est une communauté officielle. On leur dit ce qu'on fait. Ils peuvent répondre à nos questions et on répond aux leurs. Mais ils ne nous financent pas, ils ne nous apportent aucune aide quelconque à ce niveau-là. Même pour tout ce qui est serveurs et autres ressources et nos propres ressources personnelles.
Parce qu'il faut avouer, Ubuntu, c'est une des distributions les plus connues et les plus remarquées depuis quelques années. Et vous êtes une grosse communauté, particulièrement la française.
On est une des plus grosses communautés, si on ne compte pas celle anglaise, bien sûr, qui est la plus grosse. On a vraiment beaucoup d'utilisateurs et on est celle qui s'est développée le plus, mais on est là depuis le début, donc c'est peut-être tout naturel.
Et dans Ubuntu, il y a des nouveaux produits qui arrivent, lancés par Canonical, donc notamment des systèmes d'exploitation pour des systèmes de type téléphone portable ou tablette ou des machins comme ça. On sait que Canonical essaye d'investir ce marché des trucs embarqués. C'est quelque chose qui vous intéresse à Ubuntu FR ou vous êtes vraiment sur l'ordinateur classique?
Alors oui, Canonical essaye de mettre en place donc tout ce qui est Ubuntu pour les plateformes mobiles, donc le téléphone, les tablettes et autres. Donc ça c'est leur ligne de développement actuelle donc pour démarcher beaucoup les fabricants, les constructeurs de ces matériels-là. Nous, à notre niveau, en tant qu'Ubuntu FR, pour l'instant, on ne peut pas vraiment se lancer là-dedans du fait que c'est encore des versions en cours de développement. On ne peut pas faire des install parties, par exemple, sur du matériel mobile. Ça poserait beaucoup trop de problèmes, que ce soit au niveau de l'installation, au niveau de la sauvegarde des données, etc. Et les matériels étant tellement ésotériques, c'est vraiment un peu casse-gueule actuellement de le faire.
D'accord, mais à terme, ça vous intéresse de vous lancer là-dedans?
À terme, ça nous intéresse, oui. Je pense qu'on va proposer, pas forcément tout seul avec Ubuntu OS, mais sûrement conjointement avec Firefox et d'autres systèmes qui se développent sur les plateformes mobiles, de faire des sortes d'install parties à l'image de ce qu'on a au premier samedi du Libre avec Fedora et d'autres associations du Libre.
Oui, parce qu'il faut avouer, il y a une grosse ambition quand même sur ce marché-là. En plus, le Mark Shuttleworth, il a lancé des gros projets informatiques, reconstruire la couche graphique par exemple, et il a des partenariats qui sont en cours avec Samsung, si je ne me trompe pas.
Avec plusieurs fabricants même, mais oui, il y a cette volonté de changer la couche graphique pour être plus proche du matériel principalement mobile et accessoirement aussi de informatique de bureau, pour être tout harmonisé. Après, je ne sais pas trop quoi dire, mais
c'est
la tendance aussi que les personnes évoluent sur plus du matériel mobile. Les gens ont plus facilement le téléphone portable et l'utilisent en permanence, contrairement à l'ordinateur de bureau où ils y vont que pour des choses beaucoup plus spécifiques maintenant. Mais maintenant, on consulte ses emails, on répond dessus, on lit des livres, on voit de la vidéo, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, c'est beaucoup plus simple d'accès que d'allumer le PC où il faut attendre que ça démarre et où il faut être assis sur sa chaise.
En parlant de nouveautés, comment toi tu as réagi quand tu vois apparaître Unity et comment la communauté française l'adopte, l'accepte? Est-ce que les évolutions sont nécessaires? Est-ce que c'est un ratage complet?
Je dirais pas que c'est un ratage, parce l'utilise au jour le jour et ça marche très très bien.
C'est la couche graphique,
L'interface du bureau voilà, qui a été mise en avant par Canonical.
Alors moi j'ai quand même des problèmes personnellement, je veux dire sur Unity il y a quand même des trucs louches quoi, tu vois, de type les entêtes de fenêtres qui se retrouvent sous une barre et que tu peux plus choper, tu vois, enfin des trucs comme ça, des problèmes de recouvrement de fenêtres.
Il y a encore quelques bugs, oui. Globalement, la communauté qui était habituée à un autre système qui était GNOME 2 à l'époque, a eu du mal à migrer vers Unity. Certains l'ont adopté très vite et en sont très satisfaits. D'autres n'ont pas du tout été satisfaits. Une partie de ces personnages sont passés sur GNOME Shell. Une autre partie est restée sur un GNOME 2 trafiqué qui est maté. Voilà. Au niveau d'Unity, c'est en constant développement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour améliorer la stabilité, l'ergonomie, etc. Et pour en profiter pleinement, il faut vraiment suivre les évolutions au fur et à mesure. Après, c'est sûr qu'on peut être déçu par une version, mais ça peut être corrigé sur la version suivante. Donc, il faut redonner un essai environ tous les 6 mois si on a été déçu sur la fois précédente.
C'est quand les prochains 6 mois? C'est quand la prochaine Ubuntu Party?
Je crois que je viens de gagner à quelque chose au stand Linux FR.
Ah, et oui, est-ce que vous entendez du bruit derrière?
J'y vais, je reviens, à tout de suite.
Waouh, tu as gagné un boîtier Arduino?
Juste le livre Arduino en fait, donc les bases de la programmation sur Arduino, donc offert par Linux FR.
On peut voir que tu es très content?
Bah oui, je ne vais pas l'utiliser, mais je sais à qui l'offrir. Donc la prochaine Ubuntu Party, c'est ce week-end, le 1er et le 2 juin. Oui, ça fait un peu court, je sais bien, mais bon, que voulez-vous, hein. Donc il y aura, comme d'habitude, des conférences, des démonstrations, des postes en accès libre, des associations, bien sûr. Mais on a un format beaucoup plus réduit cette année du fait qu'il y a des travaux au Carrefour numérique, et donc ça nous empêche d'avoir tous les espaces.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Yeboy. Félicitations
merci à vous
pour
deux.
Ton élection.
Oui, bah, c'est des choses qui arrivent.
Et à très bientôt.
Merci.
Voilà, comme je disais, Yoboy, nouveau président de Ubuntu FR, oui, être élu président, c'est les choses qui arrivent.
Ça arrive, ça arrive.
Il y en a d'autres qui pourraient dire la même chose, peut-être.
C'est
on va,
aussi.
Voilà, avant de se quitter...
En tout cas, je remercie Manu et Luc, les reporters parisiens, qui ont pu donc prendre ces sons, et c'est bien gentil à eux, parce qu'on s'est croisés, on n'a pas beaucoup discuté, et finalement, j'apprends des infos à Montpellier, d'un salon où j'étais sur place. C'est assez intéressant.
Oui, la magie du réseau. Que se passe-t-il du côté bien de nos diverses activités? Il y aura un atelier du libre ce vendredi 31 mai. Ce sera de 18h à 20h autour de GIMP, de LibreOffice, de Linux. Oui, Pascal me fait des grands signes.
Oui, vas-y.
Ce sera à la Maison pour tous, Mélina Mercouri.
Tout à fait, et le jeudi, donc aujourd'hui, si vous nous écoutez ou en rediffusion encore aujourd'hui, ce jeudi 30 mai, eh ben, à partir de 19h, vous pouvez suivre l'organisation des Rencontres mondiales du logiciel libre de Bruxelles 2013 à l'espace Kawenga, 21 boulevard Louis Blanc à Montpellier.
Voilà, et puis un rendez-vous du livre, toujours à la Maison pour tous Mélina Mercouri, ce vendredi, de 20h à 23h.
C'est ça. C'est les rendez-vous du libre, tout à fait, qui suivent les ateliers du libre. Juste avant, 18h, 20h, 20h, 23h, les rendez-vous de la communauté du libre. C'est effectivement à la Maison pour tous, Mélina Mercouri, 842 rue de la Vieille Poste à Montpellier.
Et puis, un petit peu plus loin de nous, mais pas si loin tout de même, on salue nos amis Nîmois qui organisent ce samedi 1er juin de 10h à 17h à la Maison Carrée de Nîmes, qui n'est pas n'importe quoi. En partenariat donc avec Montpellier Libre, une install party et la découverte de logiciels libres de 10h à 17h. Donc ce samedi, venez avec votre ordinateur, repartez avec un multiboot qui vous permettra d'utiliser tout à fait légalement des outils libres, qui vous changera de vos versions craquées de je ne sais pas trop quel logiciel que vous utilisez.
Alors généralement, c'est ce qui est fait, c'est repartir avec une machine qui n'est pas transformée à 100%. Parce que des fois, comme disait Yoboy, justement, on peut avoir des problèmes de sauvegarde de données, en perne d'ailleurs, aussi, dans ces transformations. Donc c'est plutôt, vous conservez le système actuel, à moins que vous voulez vraiment passer à 100% directement, mais avec prudence, donc vers une autre distribution, donc un autre système d'exploitation libre. Oui, on se presse. Voilà. Et puis comme ça, vous repartez avec, avec du Linux. Et puis on peut aussi noter, je terminerai, à Pierre-Vive, le vendredi 7 juin 2013, à partir de 19h, amphithéâtre Pierre-Vive, donc rue Professeur Blagnac à Montpellier, conférence avec Gildas Cousin, donc conseiller technique pour l'association Montpellier Libre. Les logiciels libres et l'open data constituent une réponse citoyenne et écologique au monde numérique de demain. C'est donc le 7 juin 2013 à 19h et je joue plus avec mon stylo qui fait du bruit.
Merci Pascal, on remercie les auditeurs de Divergence, ceux de Radio Escapade 103.3, 102.0, 104.1 et Radio Larzac 88.7.8 et 98.6. On se quitte avec Edelweiss, avec toujours les rois du rodéo, c'est sous licence Creative Commons by NCND 3.0, en vous souhaitant de rester libre jusqu'à la semaine prochaine.
Respirez pendant une semaine.
Ivresse des cimes, neige éternelle, un pouce au crime, une âme rebelle, éternelle, éternelle. Sous l'avalanche, nos corps enfouis dans le silence, enseveli, enseveli, enseveli. Là où éclosent les édelweiss, tout au sommet de nos vertiges, dégringolés sous nos vestiges, sous nos vestiges, sous nos vestiges. Là où éclosent les édelweiss, là où éclosent les ailes.